En fait, moi, je voudrais parler du sida. Je pense que, comme disait un peu Elsa Dorlin ce matin, je pense qu'il y a plusieurs catégorisations dans une même discrimination. Je pense que le statut sérologique forme une catégorie aussi de discrimination au sein de la sexophobie. Et j'aimerais bien qu'on développe peut-être un peu ça. Xavier a parlé d'une sexophobie au sein même de notre communauté. C'est vrai que la sérophobie, ça vient pas juste des hétérosexuels qui nous voient comme un groupe à risque, un vecteur d'épidémie. Je pense qu'il y a aussi une sérophobie même peut-être plus forte dans notre communauté. Moi personnellement, c'est quelque chose que je vis assez mal. Et c'est quelque chose qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que je pense que les séropos sont évidemment discriminés, on refuse de coucher avec eux, d'avoir des relations affectives, tout ça. Et il se trouve que, dans le sens inverse, je trouve qu'il y a aussi une discrimination à l'égard des séronègues, de la part de séropos qui voudraient du coup, en réaction, ne coucher qu'entre eux pour plus avoir à devoir se soucier de l'autre, de simplifier peut-être les choses, d'avoir l'impression de simplifier les choses pour eux. Il y a évidemment, ça pose le problème de la prévention en général, hein, parce que du coup, évidemment, on rentre dans des problématiques de sérotriage. Et là où je vois un danger très fort pour la communauté, au-delà de l'épidémiologie qui explose, au-delà du thérapeutique avec des souches de plus en plus résistantes croisées, je vois aussi un danger de sexophobes qui arrive en plus, avec par exemple les procès qui à l'heure actuelle, là ça concerne peut-être plus des hétérosexuels pour l'instant, mais quand on voit qu'il y a une forme de prévention répressive qui est en train d'émerger avec des procès qui condamnent des séropositifs pour avoir transmis le VIH, j'ai peur que ce fonctionnement arrive aussi dans la communauté, qu'on repose toute la prévention sur l'autre, sur les séropos évidemment, mais aussi que le séronex soit dans une démarche de prévention de couple. Et d'une certaine manière, qu'on ait une image. Enfin, moi, j'ai l'impression, quand je vais dans le bordel, j'ai l'impression qu'il n'y a que des séropos autour de moi qui s'éclatent sexuellement. J'ai l'impression que les séronecs, leur stratégie, c'est de se mettre en couple, ou de pas baiser, ou de. Enfin, c'est qu'une impression, hein. J'espère que je me trompe, mais j'ai un peu cette impression-là, quand même. J'aimerais bien qu'on discute un peu de cette sexophobie-là, liée au VIH.
Oui, alors, je crois que le concept de sexophobie peut avoir aussi une certaine pertinence dans le cadre de la question du sida. Bon, dans la génération du sida, j'ai autour de moi pas mal de gens qui disent, en effet, j'ai peur de la sexualité, tout simplement. Donc des gens qui, mais objectivement, comment faire autrement, manifestent une sexophobie intériorisée par peur du sida. Bon. Alors, je ne veux pas tellement répondre à ce que tu dis, mais je suis très heureux que tu parles du sida, je ne l'ai pas tellement fait ici. Il m'apparaît clairement aussi que dans les politiques menées au niveau international ou national, la sexophobie a été désastreuse. Alors l'exemple le plus spectaculaire peut-être est le fameux plan ABC, la doctrine ABC de lutte contre le sida qui a été défini par le gouvernement Bush. Alors ABC ça veut dire A, abstinence, B, be faithful, soyez fidèle, C, condom, if need be, c'est-à-dire capote vraiment si besoin. Donc, il s'agit d'un programme développé par le gouvernement Bush qui propose plus de 15 milliards de dollars. Je parle sous contrôle des gens qui connaissent mieux la question que moi, mais 15 milliards de dollars, on n'avait jamais dépensé autant pour le sida, mais voyez dans quelles conditions. Pour le coup, c'est très sexophobe, vous voyez, abstinence, fidélité, et puis vraiment capote si besoin. Ces fonds vont être alloués en Afrique et dans la région Caraïbes, c'est-à-dire là où il y a le plus de séropositifs et de gens atteints du sida dans le monde. Et il est entendu que les fonds ne peuvent être alloués qu'à des associations qui feraient la démonstration qu'elles n'œuvrent pas en faveur de l'avortement ou du planning familial, en fait, de la contraception, de ces choses-là. Donc il faut d'abord qu'elles montrent patte blanche, et après elles peuvent avoir de l'argent. En gros, principalement, les associations religieuses auront accès aux moyens pour la lutte contre le sida en Afrique et dans les Caraïbes. Donc, on a fait déjà des enquêtes sur cette politique de lutte contre le sida qui a été appliquée dans le Texas avec des résultats désastreux. Et on a arrêté dans le Texas parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Mais on va quand même exporter cette politique désastreuse dans les pays qui n'en ont pas besoin, évidemment. On a besoin de l'argent, mais pas de cette façon-là. Le problème, c'est que pour le gouvernement Bush, l'important, c'est moins de guérir les gens que... Enfin, le gouvernement Bush, je le dis de manière un peu métaphorique, mais enfin bon, la droite religieuse, si vous voulez. L'important, c'est moins de guérir les gens que de les évangéliser, en fait. C'est vraiment une campagne d'évangélisation. Les moyens sont assez clairs de ce point de vue-là. Et là, il y a une sexophobie militante qui est considérable. Et le Vatican a joué aussi un rôle considérable à cet égard, car à partir du moment... où le sida s'est déclaré de manière, enfin, comme une pandémie, il y a eu chez certains mouvements extrémistes le sentiment d'une aubaine, en fait, qui confirmait, si vous voulez, la bonne conscience religieuse qu'on pouvait avoir jusqu'alors. Mais en voyant les débuts de politique de lutte contre le sida se mettre en place, beaucoup de catholiques au Vatican ou ailleurs ont eu le sentiment d'une catastrophe parce qu'ils se sont dit, au fond, cette politique de lutte contre le sida, c'est le moyen de homosexualiser la société. Et ils disaient homosexualiser non pas parce que les hétérosexuels qui mettent des capotes deviennent homosexuels, ça serait trop simple, trop beau ou trop laid, je ne sais pas, mais parce qu'ils adoptent des comportements d'homosexuels, puisqu'ils baisent de manière autonome. Donc la capote, qui est un moyen de contraception et un moyen de prévention, contribue à l'autonomisation croissante de la sexualité et, pour le Vatican, à l'homosexualisation. Donc là, c'est typiquement une attitude sexophobe et les remèdes qui ont été proposés par cette doctrine ABC sont des propositions politiques largement sexophobes, hein, abstinence, fidélité, etc. Et j'oubliais de dire d'ailleurs que pour le volet C, condom if need be, il est prévu qu'il ne puisse pas excéder 25% de l'enveloppe totale, etc. Enfin bon, c'est vraiment la capote... comme dernier recours ultime, si possible, pas du tout. Bon. Donc là, même si ça ne rejoint pas ce que tu dis, mais c'est pour parler du sida, je ne l'ai pas fait, donc j'essaie de compléter un peu. Vraiment, à l'échelle planétaire, les politiques de lutte contre le sida mises en place par certains groupes religieux dans le monde sont des politiques désastreuses, et peut-être que le concept de sexophobie peut être opératoire en ce sens.
Alors, ce sera, on ne peut plus prendre de questions. Donc, il y a Tom, il y a une personne ici, et Marc qui sera la dernière personne. Et ensuite, Sandrine conclura le colloque. Merci. Donc, Tom.
Ben, je te remercie, Louis-Georges, pour cet exposé. Et donc, je vais rajouter un petit complément au texte de Karine sur les trans. Effectivement, si tu tapes transsexuel sur Internet, tu vas te trouver à plusieurs millions de sites. À visée pornographique d'abord. C'est vrai que sont totalement absents par contre de cette vision sexualisante de la chose les garçons, c'est-à-dire les trans féminins vers masculins. Mais le stéréotype qui prime sur Internet, c'est la femme à pénis, ce qu'on appelle les chimelles. Donc effectivement, c'est une chose, je pense qu'on pourrait en discuter plus avant, voilà quoi. Voilà, c'était juste ça.
Oui, non, tout à fait. Enfin, cette dissymétrie que tu notes m'apparaît... Oui, tout à fait, absolument. Je ne sais quoi dire, c'est très clair.
Donc, la personne qui se trouve là-bas, s'il vous plaît.
Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé l'exposé de Louis-Georges, parce qu'il fait beaucoup réfléchir. Par rapport à la notion de sexophobie, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que finalement, elle s'articule à une sexophilie. Et du coup, la remarque de Xavier, je trouve, est aussi complémentaire. C'est-à-dire, ce qui est à l'origine de cette sexophilie et de cette sexophobie qui sont articulées l'une à l'autre, c'est finalement une sexonormativité. Et je me demande si, bon, comment il faudrait articuler tout ça. Et tu articulais aussi sexophobie et homophobie, justement, là, ça m'a fait réfléchir au fait que l'homophobie également s'articule à une forme d'homophilie qui, elle aussi, relève en amont d'une normativité. Par exemple, si on regarde les films qui sont diffusés en masse, comme Pédale Douce 2, par exemple, pour en nommer un, il est dans le cadre d'une homophilie, mais finalement qui relève aussi d'une normativité. Et finalement, je me dis qu'il y a plusieurs termes qui jouent ensemble. Et enfin voilà, tout ça, c'est ça donne à réfléchir à ça, c'est vraiment intéressant.
Oui, je crois qu'effectivement, je crois qu'effectivement, la notion même de sexophobie appelle des compléments, celui de Xavier, celui que tu fais. Je pensais à quelque chose qui va un petit peu dans le même sens. Il est certain, par exemple, que certaines formes d'idéalisation de la sexualité, une sexualité enchantée, une sexualité magnifique, reproductrice, exaltée, comme c'est bien d'avoir des enfants, etc. C'est pas de la sexophobie, parce que c'est de l'exaltation de la sexualité. C'est de la sexophobie par rapport à d'autres formes de sexualité. C'est une forme de sexophilie enchantée, qui est en même temps sexonormative, etc. Donc oui, je pense qu'effectivement, pour suivre la réflexion, il faudrait aller dans ce sens-là. J'en suis assez d'accord.
Marc ?
Moi, j'ai juste un peu du mal à parler en dernier, parce que j'ai peur de mon discours qui risque d'être... Bon, en tout cas, j'essaie quand même. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, effectivement, je trouve que le fait de reconcentrer le discours par rapport à ta démarche de recherche sur la sexophobie, c'est une manière effectivement de faire un petit point en opposition par rapport à quelque chose qui est peut-être pas si simple que ça, en tout cas pas si simple que ça pour moi à définir, par rapport à ce que tout le monde, tous les philosophes et tout le monde définit sur la sexualité. Et pour moi, dans le cadre aussi de ces UEH là, ce qui me semble intéressant, c'est justement de partir sur la construction de la sexualité, et pas nécessairement la construction de la sexualité en intégrant aussi, et pas uniquement en disant voilà, c'est facile de dire la sexualité, c'est on ouvre des espaces où on baise, mais c'est pas non plus ne pas ouvrir des espaces où on baise qui, donc là il y a vraiment quelque chose qui est assez compliqué et complexe et intéressant à construire. Donc pour moi, c'est vers ces éléments là et justement par rapport à une réflexion comme celle de la play-partie, où j'ai envie de réfléchir, d'imprégner les choses pour avoir un ensemble de complexes, de concepts qui pour moi sont assez énormes sur le sexe, la tendresse, la sexualité, l'amour, de mélanger tout ça pour arriver à créer la vie. Voilà.
Sandrine.